Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Au cinéma, savoir analyser les sons, décrypter les images, bien sûr, deviner ce que l'auteur du film souhaite nous laisser entendre. Entendre, on sait bien qu'un film est vu et entendu. Mais s'il n'est pas vu, et s'il est seulement entendu, si la salle de cinéma accueille un public mâle ou non-voyant. Au théâtre, même problème. On écoute les dialogues, on suit les mouvements de scène, les mimiques éventuelles, mais si l'on ne voit pas. Cinéma, spectacle de danse, pièce de théâtre, l'audio-description peut venir en aide aux aveugles, faire fonctionner leur imaginaire et, en quelque sorte, participer à la création d'une œuvre, sinon nouvelle, du moins particulière et parallèle. Sur les docks, première diffusion sur France Culture le 6 décembre 2010.
Les gens qui ont fabriqué le film, qui ont fabriqué la scène, ils ont fait preuve, si elle est réussie, d'une sensibilité artistique. Et il faut que nous, on soit dans le même chemin et dans la même sensibilité que cette équipe-là. En fait, moi j'ai envie de dire qu'on fait partie de l'équipe. On s'intègre à l'équipe. Bon, ils ne sont pas au courant parce que pour l'instant, on ne fait pas partie officiellement. Mais c'est ça qu'on devrait faire. Le réalisateur devrait nous choisir, devrait nous dire, bon, voilà, je fais mon film. Une fois qu'il est terminé, au moment de la post-production, je vais engager un descripteur qui me plaît parce que je sais que lui, il va bien comprendre mon film et qu'il va le décrire correctement.
Le générique s'affiche en lettres blanches sur fond rouge. Une production Les Films du Carrosse, c'est Difessa, TF1, Société Française de Production. Catherine Deneuve, Gérard Depardieu et Jean Poiret dans Le Dernier Métro.
Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musée d'or, mais il m'a suffi d'un...
La Toile Noire, un documentaire de Marie Chartron et Rafik Zénine.
Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux.
Ils mettent leurs mots au service de ceux qui ne voient pas. C'était jusqu'à récemment une pratique plutôt informelle. Les aveugles avaient recours à un proche, parent ou ami, qui décrivait à la volée le film ou le spectacle. Depuis 20 ans, c'est devenu une profession, très discrète encore, audiodescripteur. L'audiodescription va bien au-delà de sa portée sociale. Elle n'est pas une simple béquille, un compte-rendu sans relief des images. C'est une véritable écriture, qui entend bien sûr rester fidèle à l'œuvre qu'elle décrit, et qui, en se greffant sur ce qui existe déjà, ouvre la porte d'horizons sonores et imaginaires.
Musique Georges Delerue, mise en scène François Truffaut.
De grandes banderoles portant la croix gammée nazie pendent sur la façade de la Chambre des députés. Des images d'archives se succèdent.
Paris, septembre 1942. Depuis 2 ans, l'armée allemande occupe la moitié nord de la France. La séparation entre la zone occupée et la zone libre constitue une sorte de frontière qui traverse horizontalement le pays. En zone occupée, le couvre-feu vide les rues après 11 heures du soir, et pour les Parisiens, il est terriblement important de ne pas rater le dernier métro. Parce qu'ils ont faim, les Parisiens attendent des heures pour acheter un peu de nourriture. Parce qu'ils ont froid chez eux, ils se pressent chaque soir dans les salles de spectacle. Les cinémas et les théâtres font salle comble, il faut louer ses places longtemps à l'avance. Au théâtre Montmartre, une pièce est en répétition et pourtant le directeur, Lucas Steiner, a quitté la France précipitamment. Il n'avait pas le choix.
La nuit tombe. Une femme en manteau de fourrure marche dans la rue.
Pardonnez-moi, mademoiselle, pardonnez-moi. Je vous ai vu, je voudrais...
Vous voulez l'heure? Il est 7h20.
Non, merci, je sais, j'ai une...
Audio-descripteur, descripteur de film.
Moi, j'aime bien descripteur d'image, parce que audio-descripteur, c'est assez difficile à prononcer. C'est le terme qui est devenu le terme officiel. Mais moi, je préfère descripteur d'image. Voilà, c'est plus facile à dire. Et puis, c'est plus juste par rapport à la notion, à ce qu'on fait vraiment, quoi. Effectivement, c'est audio, ça finit par de l'audio, mais le travail essentiel, c'est de décrire les images.
Qui sont des images de films, qui sont des images parfois fixes, qui sont des images d'exposition, donc qui ne sont pas que du film. Descripteur d'images, images de films, de théâtre, d'expositions, photos. L'audiodescription, c'est rendre accessible une œuvre à un public qui ne voit pas, par une description précise, calée le plus précisément possible, et rendre finalement un spectacle, une œuvre sonore et visuelle, la transformer, l'adapter, la transformer en une œuvre purement sonore. Quelque chose qui doit se comprendre sans les images, au-delà des images.
C'est toi ?
Oui, je peux faire aussi. Ouais.
Bon, ben, on est parti. Trottoir. En fait, avec Aziz, on se connaît pas.
Voilà, c'est...
C'est la première fois qu'on se voit.
Aujourd'hui, ouais. Ouais.
Et on a discuté par mail sur Internet, sur les films en audio-description. Alors, comme nous, on a toujours besoin de testeurs, on a décidé de le prendre comme cobaye.
Voilà, ouais.
Il ne sait pas à quoi il s'attend, c'est très risqué, mais bon, pas au courant. Il est venu en toute confiance, le pauvre garçon.
Moi. La prise de risque fait partie de la vie en même temps. C'est, voilà, c'est... Et jusqu'à présent, j'étais cinéphile. Est-ce que je vais le rester ?
C'est ça. Est-ce qu'on va réussir à lui dégoûter totalement du cinéma ou pas ?
Ouais.
Je fous dans les poteaux, bravo.
T'as besoin d'une canne ?
Il n'y a pas de poubelle, attends.
Ah, oui.
Pardon.
Patrick Saonit, de l'association Valentin à Huy.
Ben moi, j'ai en mémoire en fait mes parents et grands-parents qui me racontaient en fait lorsqu'ils se précipitaient pour écouter à la radio les dramatiques radio où vous aviez en fait des scènes vivantes, des dialogues, mais aussi des tas de bruitages, de temps en temps des narrations sur la situation, sur les lieux. Et en fait, quand on regarde bien l'audiodescription, c'est un petit peu ça aussi. C'est on va dire presque un des pionniers de l'audiodescription et un des plus marquants peut-être dans l'audiodescription, sans le savoir, c'est Léon Zitrone. C'est-à-dire Léon Zitrone vous apportait en fait des tas d'informations sur tout ce qui se passait quand il faisait en fait les mariages princiers ou les enterrements, où vous avez des très longues scènes où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il arrivait en fait à vous décrire tout ce qu'il y avait alentour. Et puis vous rajoutez des tas d'éléments. Donc ça, c'était aussi un fabuleux audiodescripteur.
Alors sans indiscrétion, toi, t'as déjà vu ou t'as jamais vu ?
Ouais, j'ai jusqu'à l'âge de 12 ans.
12 ans, ouais.
J'avais un faible reste visuel.
Ouais.
Enfin, suffisant pour pouvoir voir les couleurs. Donc j'ai une très bonne notion des couleurs. Donc un ciel rougeoyant, je vois tout à fait le...
D'accord, c'est ce que c'est, ouais.
Voilà, c'est ça. Et bien que j'ai plus rien depuis l'âge de 12 ans, j'ai encore ces images en tête. C'est-à-dire que j'arrive à reconstituer le...
Ouais, ça revient, quoi. La mémoire des images,
Images
reviennent dans la tête.
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Un élément important également dans l'audiodescription, c'est la lumière qu'il peut y avoir pendant la scène, par exemple.
Ouais.
C'est-à-dire que d'écrire si c'est un jour... gris ou ensoleillé, c'est le matin, la nuit, enfin des détails comme ça qui plongent directement le spectateur
dans l'ambiance.
Dans l'ambiance, voilà, complètement. Ouais. C'est ça.
L'audiodescription en fait a démarré aux États-Unis avec Auguste Coppola, le frère de Francis Ford Coppola et M. Fraser, qui ont eu cette idée de remplacer en fait les personnes qui accompagnaient un de leurs amis aveugles et qui devaient chuchoter à l'oreille de la personne quand elle allait au cinéma ou quand elle regardait un film à télévision. La personne devait chuchoter ce qui se passait à l'écran, donc en décalé, en couvrant souvent les dialogues ou les bruitages importants, et puis surtout dans une salle de cinéma, en dérangeant le public qui était aux alentours. Donc eux ont eu l'idée effectivement d'écrire la description à l'avance. Alors au tout début, c'était pas enregistré chez eux, c'était des speakers en fait qui la délivraient après en direct, mais de tout ça aussi de le diffuser dans un casque sans fil pour permettre à la personne aveugle de se placer où elle veut dans la salle et de ne pas gêner le public alentour.
Marie-Luce Plumosi et Laurent Montel, qui sont les audiodescripteurs ?
Pour l'instant, c'est assez varié. Ce sont des gens qui connaissent le cinéma, ce sont des gens qui aiment le cinéma, qui connaissent un minimum les règles cinématographiques, qui savent analyser des scènes, qui savent décrypter, qui savent rechercher et analyser les intentions d'un auteur, d'un réalisateur. Ce sont des gens qui, en même temps, doivent avoir une compétence très développée en français, en écriture. Aujourd'hui, on a un petit peu, des gens qui viennent de pas mal d'horizons. Des gens qui ont fait des études de cinéma, des comédiens. Mais des comédiens qui ont un attachement au cinéma, à la structure d'un film et aussi surtout à l'écriture.
Laurent Mantel, qu'est-ce qui vous a amené à l'audiodescription ?
Alors moi, j'ai commencé par être comédien au théâtre et à faire de la mise en scène. Donc je m'intéressais au spectacle, au cinéma, etc. Et puis à la construction du spectacle et du cinéma et de la mise en scène. Enfin, moi, j'ai fait la mise en scène au théâtre. J'ai aussi fait de la réalisation sonore, puisque j'ai commencé aussi à travailler à la radio. Donc j'étais très intéressé par les univers sonores. Et il s'est trouvé que je travaillais comme bénévole à l'association Valentin Huy pour lire des livres. Donc j'étais lecteur et c'est comme ça que j'ai rencontré l'équipe. Et un beau jour, il y a eu besoin de monde et comme ma manière de lire les livres leur a convenu, ils m'ont proposé de suivre la formation d'écriture. Ça s'est bien trouvé puisque moi j'avais déjà une pratique d'écriture et puis une réflexion sur la construction, sur le récit. L'audiodescription a été la rencontre de toutes ces compétences que j'avais plus ou moins récupérées à droite et à gauche. C'était vraiment une rencontre de tout ce qui m'intéressait. À la fois le récit, à la fois la comédie, à la fois l'écriture et le son pour finir.
Des épais nuages cotonneux s'écartent et ouvrent un chemin entre des masses vaporeuses qui s'effilochent dans le ciel jauni d'un matin blafard.
Onyx Film, Iguana Film et la maison présente.
Un zeppelin gris sombre glisse lentement à travers les nuées. Loin en dessous de la nappe mouvante des nuages apparaît une ville.
Un film de Juan Solanas.
Le zeppelin survole la zone portuaire. Les jetées et les bassins se découpent sur la mer aux reflets violets.
L'homme s'entête.
La géométrie compliquée des rues se précise. Une longue digue délimite le chenal principal d'un port industriel. La mer renvoie la lumière changeante du soleil filtrée par les nuages. Le zeppelin passe au-dessus des quais où s'alignent des containers et des fûts. Le quartier des usines et des entrepôts entoure le bassin du port. Les hauts bâtiments industriels s'entrelacent dans un fouillis aux teintes noires, jaunes, ocre et rouille. Debout derrière les vitres sales d'une grande fenêtre à châssis métallique, un homme sans tête contemple le paysage embrumé. Le col de sa chemise blanche impeccable entoure un cou qui n'existe pas. L'homme sans tête va ramasser une enveloppe glissée sous la porte de la mansarde. Un lit étroit est installé dans un coin de la pièce au mur sombre, verdâtre et défraîchi. Il tient l'enveloppe à deux mains et la regarde. Il va s'asseoir lentement sur le lit. Il sort de l'enveloppe deux tickets cartonnés portant le mot « balle » en lettres blanches sur fond noir. Il les serre tendrement dans ses mains. Il allume une grosse radio à lampe encastrée dans un meuble de bois roux posé à la tête du lit. Il prend sur la radio la photo d'une jeune femme brune. Avec son pouce, il caresse le visage souriant sur le cliché aux couleurs sépia. Il serre la photo contre son cœur.
C'est Monsieur Phelps. J'ai reçu des invitations pour le bal de ce soir. Alors je me demandais si vous vouliez bien venir avec moi. Ah, 19h. Oui, d'accord. C'est juste à côté. Oui, à tout à l'heure alors.
Il note sur un calepin, 19h, café du port. Il repose la photo et le calepin sur le lit. Il se tord les mains.
Wiza Ouyed, cette audiodescription de l'homme sans tête, particulièrement réussie, j'aimerais savoir comment vous en êtes arrivé à travailler là-dessus. Enfin, pourquoi avez-vous choisi ce film et comment vous avez travaillé ?
Je pense que c'était une espèce de défi, parce que c'est un film qui comporte peu de dialogues. Puis en plus, moi, je voulais faire de la radio avec ça. J'avais inventé un concept qui s'appelait un film à la radio. Donc c'était vraiment pour faire du cinéma à la radio. J'ai toujours un peu comme obsession l'image à la radio. Donc c'était un peu dans ce cadre-là. Puis aussi pour voir jusqu'où on pouvait aller avec l'audiodescription, avec un film qui n'était pas un film muet, mais en même temps... Et aussi qui n'était pas un film hyper réaliste, donc avec... justement, tout un style d'image très très spécifique. Ce qui me gêne dans beaucoup d'audiodescriptions, c'est le fait qu'on sorte du film, c'est-à-dire que l'audiodescription est plaquée sur le film au niveau sonore d'une manière qui, moi, me semble artificielle et qui me trouble quand je regarde un film. Parce que je suis d'un seul coup, j'y rentre par le son. C'est-à-dire que le son est tellement extérieur au film que finalement, l'audiodescription, moi, m'empêche quasiment de me concentrer sur le film très souvent. Et je trouve que la plupart du temps, on n'accorde pas une attention suffisante à la façon dont c'est mixé. Donc j'avais demandé à un ami, un gesson, de travailler particulièrement le mixage et d'entrer le son de l'audiodescription dans le film. C'est-à-dire qu'on arrive à des niveaux, à des qualités de son qui ne se contredisent pas en permanence. Parce que sinon, il y a la description d'un côté, il y a le film de l'autre, et c'est superposé d'une manière qui, je pense, fait perdre de la qualité au travail qu'on peut faire. Les audiodescriptions sont souvent bonnes, ou, en tout cas permettent la compréhension des films, mais moi, elles me font perdre parfois la compréhension du film, parce que dans un film, quand même, l'essentiel, à part l'image, que bien sûr, quand on est aveugle, on ne perçoit pas, ou peu quand on est très très malvoyant, c'est quand même le jeu des acteurs. Donc si je suis obligée de tout le temps basculer d'une chose à l'autre, et que l'audiodescription, au lieu d'entrer dans le film, en fait sortir, je trouve ça assez catastrophique. Dans la qualité sonore, dans le mixage et dans l'écriture, on doit trouver... On doit, dans la mesure du possible, restituer le style du film. En même temps, sans jamais... On n'est pas là pour raconter le film. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire « il est triste ». Ça, c'est le jeu de l'acteur qui le dit. Et puis c'est moi, parce que je suis l'histoire. Je peux dire qu'il pleure si c'est complètement silencieux ou qu'il y a une larme qui coule. Mais à la limite, il vaut mieux dire qu'une larme coule que dire qu'il pleure.
Il a la mémoire des sons à un degré surprenant. Et les visages ne nous offrent pas une diversité plus grande que celle qu'il observe dans les voix. Elles ont pour lui une infinité de nuances délicates qui nous échappent, parce que nous n'avons pas à les observer le même intérêt que l'aveugle. Il en est pour nous de ces nuances comme de notre propre visage. De tous les hommes que nous avons vus, celui que nous nous rappellerions le moins, c'est nous-mêmes. Nous n'étudions les visages que pour reconnaître les personnes, et si nous ne retenons pas le nôtre, c'est que nous ne serons jamais exposés à nous prendre pour un autre, ni un autre pour nous. D'ailleurs, les secours que nos sens se prêtent mutuellement les empêchent de se perfectionner. Cette occasion ne sera pas la seule que j'aurai d'en faire la remarque. Notre aveugle nous dit à ce sujet qu'il se trouverait fort à plaindre d'être privé des mêmes avantages que nous, et qu'il aurait été tenté de nous regarder comme des intelligences supérieures, s'il n'avait éprouvé 100 fois combien nous lui cédions à d'autres égards.
Il n'y a pas de règle. Je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Chaque film propose ses propres règles en fonction du récit. Et il ne faut pas se tromper, parce que si on fonctionne avec des espèces de règles toutes établies, et comme une espèce de recette de cuisine, on va appliquer le même recette à tous les films, et ça, on va forcément faire quelque chose qui va être très mauvais. Hélas, on peut peut-être évoquer la charte de l'audiodescription, qui est une charte officielle, qui a été promulguée par le ministère, etc., et qui, dans sa deuxième partie, propose un espèce de mode d'emploi, qui s'appelle mode opératoire, et qui dit, voilà, il faut dire qui, quoi, comment, où. Alors ça, c'est une aberration complète. Moi, j'appelle ça la loi du qui ou quand quoi, un truc comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Quand on est devant une scène, il faut savoir... Peut-être que dans une scène, le seul élément qu'il faudra dire, ça va être la couleur des chaussures du gars qui rentre. Parce que c'est ça qui va être important. Et puis que tout le reste va faire parfaitement se comprendre. Il y a des grands principes, mais il n'y a pas de règles. Un petit peu comme l'écriture d'un bouquin ou comme l'écriture du scénario. Il y a une descriptrice qui avait dit, Séverine Skersi, qui est une amie avec qui on travaille beaucoup, qui avait dit, mais quand on fait une description, c'est comme un scénario à l'envers. C'est-à-dire que le scénario, c'est le réalisateur, il va faire des images à partir du texte, et nous, on va avoir des images et on va fabriquer un texte à partir des images pour raconter finalement la même histoire.
Peut-être on peut évoquer les risques de décrire qui ou quand quoi là. Dans notre séance de relecture, de mise en commun, quand les deux parties du binôme se retrouvent pour se corriger mutuellement, on a parfois la chance de travailler avec en plus une troisième personne qui est une troisième personne non-voyante. Et ça, c'est drôlement bien. Là, la personne n'a pas vu les images, n'a pas vu le film, ne connaît pas l'histoire, etc. Donc, c'est quelqu'un qui va pouvoir nous mettre en qui va pouvoir nous dire, bah, là,
tester ce qu'on a fait, quoi.
Voilà,
est-ce que ça marche pas.
Là, j'ai pas compris. Ou là, c'est vrai que nous deux, on se serait peut-être pas fait la réflexion. Enfin, j'en sais rien. Peut-être.
Tout a commencé à Paris, il y a presque un an.
Dans une librairie. Alors, je m'arrête là. Parce qu'il y a un détail un peu particulier, je ne sais pas si ça t'a choqué Aziz ou pas, mais dans la première scène, on voit le parc avec les gamins et tout ça, mais on ne voit pas les deux personnes qui parlent.
Ah.
On ne les voit pas en fait.
D'accord. D'accord, bah ça c'est...
Alors je ne sais pas à quoi ça sert qu'on ne les voit pas d'ailleurs, mais ils nous les font pas découvrir tout de suite.
D'accord, ouais.
Alors je ne sais pas quoi faire avec ça.
Eh ben, il faut rien faire.
Oui. Eh ben, écoute, c'est un peu notre principe, parce qu'on se dit, on a le choix, on dit rien, parce qu'on voit rien, on dit rien.
Exactement.
Ils auraient été là, on aurait dit, bah, elle est brune, en mini-jupe et bidule, et lui, voilà, il est comme ça.
C'est ça.
Ou alors, il pourrait y avoir l'option facile qui dit, on ne voit pas les gens qui parlent. On ne voit pas les deux personnages, oui, voilà. Bon, mais ça, c'est nul.
Ce qui suppose que vous le savez, que vous, il y aura des gens après qui vont...
Oui, enfin, ouais. Voilà, parce que... voilà. Donc, si on reste sur le cavalier, le policier à cheval, les enfants qui jouent, et voilà. Et on entend ce dialogue en voix off.
Et c'est vrai que les voix sont en premier plan, donc elles ont une très grosse présence, mais par exemple, on ne les voit pas du tout à l'image. L'image, c'est ailleurs, sur les gamins, il y a des gens sur une barque. Ils pourraient être un peu n'importe où dans l'image, on n'en sait rien au début.
Oh, oui, tout à fait. Mais en même temps, c'est quand même une information que le public voyant a, et le public non-voyant n'a pas.
Ouais.
Voilà.
Alors c'est un petit peu de colle là.
On entend en voix off. Alors regarde si y a moyen de placer, on entend en voix off les deux comédiens.
On va un peu s'interdire de dire cette formule là aussi, ouais, parce qu'on les entend, oui. C'est évident, on les entend. Alors ou alors éventuellement, hein.
Nous, on réalise presque la totalité des travaux. C'est-à-dire que nous avons 9 auteurs qui travaillent pour nous, qui écrivent en fait les textes, qui vont être après enregistrés par des speakers. Il y a 4 speakers professionnels qui travaillent aussi pour nous. Et on a dans nos locaux, actuellement, donc une cabine d'enregistrement et un poste de mixage. Et tous les enregistrements, les mixages sont réalisés ici, sauf pour la télévision suisse romande qui effectue elle-même les enregistrements des descriptions qu'on écrit pour eux. On prend vraiment le temps de mixer correctement, de bien placer les voix, de mixer de telle façon que l'audiodescription ne soit pas une voix qui se rajoute au film et qui vient dominer le film. Il faut vraiment que ça se noie dans le film lui-même et qu'au bout d'un petit moment, le spectateur oublie en fait cette description et qu'elle fasse vraiment partie du film. Donc on prend le temps nécessaire effectivement au mixage, aux nuances, à tester aussi avec quelques collègues aveugles que nous avons pour voir si vraiment la description passe bien, le mixage passe bien, et pas hésiter à faire des fois une réécoute complète du film avant de la délivrer au client. On a un soin tout particulier à notre travail, puisqu'en fait, nous sommes une association. Et quand on côtoie le monde du cinéma en disant, voilà, on est une association et on va faire quelque chose pour vous, on est regardé un petit peu avec un petit peu comme des bricoleurs. Et il a fallu vraiment qu'on fasse nos preuves de ce côté-là et qu'on fournisse un travail de qualité pour qu'on arrive à développer l'audiodescription auprès des professionnels.
Est-ce que vous êtes, par exemple, en contact avec les réalisateurs ?
Ah oui, tout à fait. Ça aussi, dès que l'on peut, une fois que le texte est écrit par les auteurs, on le soumet aux réalisateurs ou aux producteurs du film ou aux assistants du réalisateur pour qu'ils valident la description. Donc, c'est pas simplement dire oui, on prend la description, mais par exemple, de nous faire des remarques par rapport à des choses qu'on aurait écrites, soit par exemple pour leur expliquer pourquoi on a fait certains choix, soit pour qu'eux nous disent par exemple les priorités qu'ils ont sur certaines descriptions. Quand vous avez à l'écran beaucoup de choses à décrire, il faut effectivement faire un choix pour pouvoir bien l'écrire dans les silences qui nous sont laissés. Et ce choix, effectivement, soit on peut essayer de le faire nous, soit ça peut être le réalisateur qui nous dit « mettez ceci en avant » et après, par ordre de priorité, ces autres choses. Sinon, nous, on aura peut-être fait un choix qui serait différent de celui du réalisateur.
Donc, dans le meilleur des cas, vous co-écrivez, presque.
Oui, c'est ça. C'est, en fait, ce qu'il faut, c'est rester humble en fait, par rapport au travail du réalisateur, puisqu'en fait, ce qui est important, c'est pas trop notre travail, c'est de rendre accessible la réalisation d'un film aux personnes aveugles et malvoyantes. Donc, c'est nous, on va être un peu un média entre le réalisateur, le caméraman, le preneur de son, les comédiens et le public aveugle et malvoyant. Donc, il faut pas, par exemple, partir dans des envolées lyriques. Il faut avoir une écriture simple. Pas simpliste, mais simple, c'est-à-dire utiliser les termes appropriés, ne pas être répétitif, mais être discret, en fait. Il faut vraiment qu'on donne, en fait, à la personne aveugle le moyen de faire fonctionner son imaginaire pour rentrer dans le film et le comprendre comme un public qui n'a pas de handicap visuel.
X-Film Creative Pool. Le générique défile sur fond noir. X Verlay présente une production X Film Creative Pool, coproduit avec Westdeutschen Rundfunk et Arte.
Sur un film amateur tourné dans un jardin, un garçon d'une dizaine d'années pousse une brouette où est assise une fillette un peu plus âgée. Un sous-titre indique notre datcha, été 78.
Regardez-moi. Regardez la caméra.
Le garçon porte des plumes d'un lien sur la tête. Il essaie de chiper un gâteau.
Pas touche.
La petite fille s'approche du garçon allongé dans un hamac et le secoue.
Alex, tiens-toi bien.
Papa ! Aide-moi !
En ville, Alex pose fièrement en montrant son polo décoré d'une fusée et des lettres CCCP.
Daniel Brühl, Catherine Zass, Maria Simon, Shulpan Kamatova, Florian Lucas, Alexander Beyer, Burghard Klausner et Michael Gwizdek.
Des photos s'enchaînent. Au centre d'une grande place bordée par des immeubles de béton, des gens sont assis autour d'une fontaine monumentale. Sur une autre esplanade encadrée d'immeubles, des badauds se promènent autour d'un monument circulaire surmonté d'une sculpture représentant un atome. Une large avenue traverse la ville. Quelques rares voitures à l'aspect vieillot y circulent. Plusieurs petites voitures identiques mais de couleurs différentes sont garées sur un parking. Un grand portrait rouge et noir de Lénine est accroché sur la façade grise d'un bâtiment administratif. On survole la ville, la nuit. Quelques lumières brillent aux fenêtres des tours. Les immenses avenues sont désertes. Un buste de Lénine tourne lentement devant une fresque à la gloire de la conquête spatiale, montrant des fusées, des satellites et une station orbitale.
Goodbye Lénine.
Laurent Mantel, comment ça se passe ? Est-ce que vous interprétez vous-même vos audiodescriptions ? Est-ce que des comédiens le font ? Et surtout, quel est le degré d'interprétation du texte ?
Effectivement, alors là, ça c'est la phase finale, à partir du moment où le texte a été finalisé, tout a été corrigé, tout est en place. On passe en studio. C'est un studio très simple, ça me suffit d'une petite cabine son avec un micro, et on cale les phrases en enregistrement. Il se trouve que Marie-Luce Plumosi et moi-même, on fait les deux, c'est-à-dire qu'on écrit et on enregistre nos propres textes. Parce que moi je suis comédien à la base, donc c'est mon métier, donc j'adore ça. Et Marie-Luce, bien qu'elle se défende d'être comédienne, elle le fait très très bien aussi. Mais sinon, c'est un peu un cas particulier, parce que sinon, c'est comme dans le métier en général, ceux qui écrivent et ceux qui interprètent ne sont pas les mêmes. Donc la plupart du temps, c'est des comédiens ou des descripteurs comédiens, mais ce ne sont pas les mêmes personnes qui enregistrent. Donc moi j'enregistre, j'ai la chance d'enregistrer mes propres textes, et puisque même au moment où je les écris, je sais comment je vais les dire. Enfin, je suis en train de réfléchir déjà à la manière dont je vais les interpréter. Je dis bien interpréter très volontairement, parce que pour moi c'est fondamental d'interpréter les textes de description dans un mode très nuancé et très en pastel par rapport aux couleurs du film. Je parle de couleurs là pour donner une image, puisqu'il va, il va s'agir de s'intégrer dans le film. Il y a parfois on entend qu'il faut avoir une voix neutre et monocorde. Pour moi, c'est une aberration complète une fois de plus. Parler d'une voix neutre sur un film qui est une expérience émotionnelle, ce serait signifier au spectateur « je vous dis tout ça, mais en fait, moi, ça m'est complètement égal ». Et ce serait détruire complètement le film. Alors qu'en fait, on devient un narrateur. On est la petite voix dans l'oreille, comme on dit, qui va raconter l'histoire avec les autres éléments du film, avec le bruitage, les dialogues, les acteurs, qui sont les éléments fondamentaux. Et nous, on va aider tout ça. Et on va s'intégrer à cette œuvre commune, à cette équipe, quoi. Et il va falloir être exactement dans la même énergie que le film, ni plus ni moins.
Il entre au jardin secret, la boutique de fleurs de Sophie, et pose son sac sur le comptoir. Elle cache la lettre.
Ouais.
Moi, j'ai les noms, ça qui s'est demandé.
Tu veux que je repasse ton linge?
Non, est-ce que tu peux chercher parfois les codes de
Donc, il traverse la rue, un sac de linge à la main, et ensuite il entre dans la boutique de Sophie, pose son sac sur le comptoir. Brrr, elle cache la lettre. Oui? Voilà.
Et est-ce qu'on peut dire à la fin, il laisse le sac? Ou ça sert à quelque chose ou pas? Parce que c'est un peu ça le gag final, quoi. Mais bon. Enfin, on comprend, puisqu'il dit. En plus, il peut repasser le linge. Il y a une espèce de flop du sac, là.
Ouais.
Il laisse le sac. Il laisse le sac. Ouais, il y a ce bruit qui tape sur le.
Ouais.
Oui, ce bruit très bien. La main qui tape sur le comptoir. Ou...
Ouais. Ouais, en fait, il tape sur le sac. Il a déjà posé le sac sur le comptoir.
Ouais.
Il tape sur.
Est-ce que.
Ou il laisse le sac.
Ouais. Voilà, il laisse le sac, ouais. Ouais. Comme ça.
Donc on n'explique pas le bruit.
Bah si juste après le plof, ouais. Mais il laisse le sac, à mon avis, on va l'associer.
Ouais, ouais, c'est ça.
Il laisse le sac.
Ouais.
Merde, il dit. Tiens, on dit un truc. Ouais.
Je suis venu pendant que je l'ai dit. C'est pas drôle, Mathias. Oui, va te préparer.
Louis rapporte son bol. Il porte la même robe de chambre que son père. Il regarde par la fenêtre.
Oh, déménagement, Carlier.
Ah oui, dépêche-toi, on va être en retard à l'école. C'est vrai que t'es pénible, tu râles tout le temps.
Mathias sourit discrètement. Ok, alors il regarde par la fenêtre, on propose de le zapper. Tu te souviens?
Ouais.
Entends put-put.
Ouais. Ben, si, faut le laisser quand même. Parce que. Ouais, c'est pas évident.
D'accord. Alors attends, j'en mange quelques secondes avant.
C'est pas drôle, Mathias. Louis, va te préparer.
Louis rapporte son bol. Il porte la même robe de chambre que son père. Il regarde par la fenêtre.
Mais ton déménagement qui arrive.
Ah oui? Et je vois, ouais.
Voilà, bon, bah
oui. Oui, c'est juste après le tutu.
Ouais.
Va te préparer.
Il porte la même robe de chambre que son père.
Mais ton déménagement qui arrive.
Ah oui? Dépêche-toi, on va t'en faire à l'école.
Voilà ce que ça donne, je sais pas.
On essaie de l'enlever pour voir. On refait.
Chaque film impose ses règles. On a décrit l'arnaqueur, voilà, il y a peu de temps. Et un plan sur Vanessa Paradis qui traverse la rue, avec sa petite robe, ses talons, elle est à Monaco. Et elle a un grand sac de cuir à la main, bon, et elle rentre dans une boutique de chaussures. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, elle se dit « mon sac », elle se retourne et son sac a disparu. Elle sort, elle retourne à sa voiture pour chercher son sac. Bon, je m'arrête là. Alors moi j'ai dit, elle traverse la rue, elle est vêtue comme si, elle a un sac en cuir à la main. Et une personne aveugle dans le public qui nous a dit après, mais c'est bizarre, je me suis demandé pourquoi on parlait de son sac. Et puis après, c'est vrai, on comprend parce qu'elle le cherche. J'ai mis l'accent. Avant même que l'action en parle, enfin qu'on en parle, j'ai mis l'accent sur ce sac. Et ça a créé des questions, comme ça, chez certaines personnes qui se sont dit, oui, pourquoi elle parle d'un sac? Ah oui, après, elle cherche son sac, effectivement, quelqu'un lui a dérobé son sac.
Ça, c'est un cas d'école intéressant, parce que le sac, je pense qu'il est quand même intéressant, parce qu'après, il va jouer après. Le réalisateur, il l'a présenté. Ça pourrait être une scène d'un polar, par exemple, où il y a un élément fondamental qui est posé comme par hasard dans le plan et qui va jouer un rôle très important dans le reste de l'histoire. Dans Hitchcock, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui sont apportés, au début d'une manière comme par hasard, on les remarque à peine, et puis après, petit à petit, on se rend compte que cet élément-là était fondamental. Alors nous, on sait que l'élément est fondamental, il est dans l'image, et il va falloir qu'on arrive à le placer, mais pas de manière ostentatoire. Et c'est là que la phrase va devoir essayer de reproduire l'image, et que si un élément dans l'image, il existe, on sait qu'il faut quand même qu'il soit cité, mais il faut qu'on arrive à le faire exister dans la phrase de manière aussi légère qu'il est cité dans l'image. On est quand même soumis alors après ça... Le choix à quel moment on met le sac qui joue ou qui joue pas, c'est surtout la manière de le faire passer. Moi, je trouve qu'il faudrait revoir la phrase pour pas téléphoner les faits, quoi. Mais il y a d'autres moments. Moi, je pense surtout au film Hitchcock, mais j'ai pas d'exemple très très précis.
Par exemple, dans Les Oiseaux.
Dans Les Oiseaux, effectivement, il commence à y avoir des oiseaux. Enfin, ça commence déjà. Ça commence dans une oisellerie, et après, petit à petit, on en voit de plus en plus menaçant, puisque après, ça commence avec les mouettes, etc., les becs crochus. Avant finalement, les attaques d'oiseaux arrivent très très tard dans le film. Hein. Il faut qu'on c'est ça. C'est l'enjeu, c'est ça. C'est-à-dire que la phrase doit retranscrire l'image en mettant en sujet, en mettant en faisant des focus dans la phrase même. Sur des éléments ou sur d'autres. En général, dans les scènes où les éléments accessoires comme les oiseaux sont placés, on a une autre action, c'est-à-dire qu'on va avoir le personnage principal qui va être sujet de la phrase. Et puis, dans où quelques mouettes passent à l'horizon, il va falloir qu'on ait à les placer mine de rien, je dirais, parce qu'ils sont dans le film et ce sont ces espèces de filigranes qui deviennent de plus en plus importants, de plus en plus prégnants, puis qui vont devenir les acteurs majeurs. Et après ça, on dira carrément le sujet de la phrase, ce sera les oiseaux font ci et font ça.
Oh, je me demande qui ça peut être. Il y a quelqu'un ? Qui est là ?
Elle ouvre la porte.
Regardez.
Une mouette morte gît par terre.
Pauvre petite bête. Probablement qu'elle s'est égarée dans la nuit. La nuit est claire, Annie. C'est la pleine lune.
Les deux femmes se regardent. L'image devient noire.
Qu'est-ce qu'on ne peut pas décrire ? Est-ce qu'il existe des films qu'on ne peut pas décrire ? Alors, moi, je me suis pris des grandes leçons, tout en étant à l'origine de l'audiovision. Je m'étais toujours dit qu'un film sans parole, par exemple, ce serait pas intéressant de le faire parce qu'on ferait une explication de film. Et un jour, un de nos gros clients au niveau du DVD nous a demandé de faire la description de La Guerre du Feu. Donc La Guerre du Feu, c'est un film qui n'a pas de dialogue, mais n'ayant pas de dialogue, il n'y a pas de nom de personnage, il n'y a pas de nom de lieu. Et en fait, il va falloir décrire un film comme ça, sans ces éléments-là. Et ça me paraissait une aberration. Donc dans un premier temps, j'avais refusé. Et ce client est revenu à la charge en disant « Si, si, on va le faire ». Et donc nous, on a demandé, normalement on demande 15 jours, 3 semaines pour faire une audiodescription, l'enregistrer et la mixer. Là, on a demandé 2 mois. Et surtout qu'au bout de 2 mois, on teste l'audiodescription. Et si elle ne fonctionnait pas, on en restait là, c'est-à-dire que nous, on ne facturait pas, mais par contre, ça ne serait pas utilisé par le client. Et il se trouve que les personnes qui ont travaillé sur le film ont fait un travail qui m'a assez éberlué. Alors, elles sont parties effectivement aussi du livre qui avait servi au réalisateur à faire le film. Elles ont pu contacter le réalisateur, elles ont consulté beaucoup de documents sur le film, et elles ont fait une audiodescription qui, bien sûr, est présente tout au long du film, mais qui disparaît en fait dans le film et qui n'est pas une explication de film. Et les seules choses sur lesquelles on ne travaille pas parce qu'on n'y arrive pas encore, ce sont les petits films comme les Charlie Chaplin, les petits courts-métrages qui vont très vite, qui sont souvent accélérés, où les gags, ce sont des coups de pied dans le derrière, des coups de bâton, des claques, et visuellement, c'est très marrant, sauf qu'en description, ça donnerait un petit peu coup de pied dans le derrière, coup de pied dans le derrière, coup de bâton, claque, et en fait, ça, au bout d'un moment, c'est pas marrant.
J'imagine que vous êtes amené à décrire également Laurent Mantel ou Marie-Luce Plumosi, des films que vous n'aimez pas du tout.
Bizarrement, à partir du moment où on commence à travailler, on commence à faire scène par scène, à être dans l'action du film, moi, pratiquement à chaque fois, je m'intègre dans l'équipe du film et
on s'y attache.
On s'y attache. Ouais. On finit par dire, ah bah finalement il y a quand même, là c'est quand même pas mal, bon, mais, et là lui il est drôle, et puis il y a toujours un moment donné où, enfin c'est très rare que le film ait résisté du début jusqu'à la fin, quoi, où on se dit du début jusqu'à la fin c'est complètement ni fait ni à faire. Hein.
C'est drôle parce que la question de faire partie de l'équipe comme ça, c'est quelque chose qu'on ressent particulièrement au théâtre. Moi, j'ai fait beaucoup d'audiodescription au théâtre, et alors on n'est pas du tout sur la scène, hein, on est soit en face avec la vue sur la scène, soit dans un petit cagibi derrière avec un petit retour vidéo. Mais la salle s'éteint, les lumières s'éteignent, le rideau se lève, et on a l'impression qu'on se sent pas un comédien, mais on fait partie, on est complètement partie intégrante et du spectacle. On est donc là 2 heures devant notre micro, complètement concentré. On fait zut comme ça quand on a raté un effet. À la fin, les applaudissements, on a une espèce de plaisir. Vraiment, on se sent dans le, complètement dans l'œuvre.
Ça va bien, Madame Colosse?
Oui,
j'ai oublié.
Oui,
voilà. Merci.
Voilà.
Eh ben, on va tous monter alors.
Oui,
j'adore le monsieur qui va venir. Viens, vous montez en premier,
oui.
Vous savez où c'est?
Bah, sur
second.
Second.
Hein,
Christelle Longe, vous semblez avoir plusieurs casquettes dans ce théâtre.
Oui.
Vous semblez aussi connaître tous les spectateurs aveugles et malvoyants. Vous les appelez tous par leur prénom.
Oui, c'est un public que je connais bien. Enfin, que je connais bien. On apprend à se connaître. Bah, en fait, j'ai quand même un contact très privilégié avec eux, c'est-à-dire que ça va de la diffusion de l'information jusqu'à l'accueil à la fois donc pour la rencontre autour de la maquette, mais l'accueil dans la salle, c'est moi qui leur remets leur casque, c'est moi qui leur fais la description. Donc forcément, il y a quelque chose qui, au fil du temps, se crée et qui, moi, m'intéresse dans la mesure où c'est assez cohérent. C'est-à-dire que moi, je suis chargée de relations publiques. Le public en situation de handicap fait partie de mon poste. Et du coup, je considère que ça n'est pas seulement leur donner l'information, ni seulement les accueillir, ni seulement... voilà, j'ai l'impression que je peux rentrer en contact de manière plus privilégiée avec eux parce que j'essaie de les faire rentrer au théâtre et puis je les raccompagne à la sortie. Il y a quelque chose comme ça.
Vous êtes à plein. Ouais, il est assez brillant. Il y a beaucoup de béton ici. Allez-y, entrez. Ah voilà, bah super, vous avez trouvé les plans.
Oui.
Ah bah génial. Hein.
On nous les a donnés. Oui.
Ouais. Donc vous avez fait la connaissance de Simon.
Bah on s'est.
Bonjour.
Donc Simon est assistant de la dramaturge Anne-Françoise Benamou. Voilà, et c'est lui qui va vous présenter un peu la maquette et puis le spectacle plus globalement. Voilà.
Alors, moi, je vais commencer par vous présenter l'auteur, Bernard-Marie Coltès, et ensuite le metteur en scène, Michel Thalheimer, pour qu'on puisse ensuite parler de la rencontre de leurs deux œuvres. Donc, l'œuvre de l'auteur et l'œuvre du metteur en scène. Donc, son premier grand succès pour le théâtre, justement, c'est la pièce qui est mise en scène ce soir, c'est Combat de nègres et de chiens. Donc, c'est une pièce qu'il a écrite en Amérique centrale.
Vous alliez déjà au théâtre avant l'audiodescription, avant l'introduction de l'audiodescription dans les théâtres ou dans les
cinémas ? Oui, mais je dirais que l'audiodescription m'a apporté la vue, si vous voulez. Ça paraît tellement évident et ça nous a manqué pendant tellement longtemps, que ce soit pour le cinéma ou le théâtre, que... C'est un plus qui nous ferait deuil de devoir supprimer demain, quoi. Mais ce qu'il faut dire et souhaiter, c'est que l'audiodescription ait lieu lors de la fabrication du film, et non pas a posteriori, comme tout qu'on adapte pour les handicapés, quoi. Ça coûterait beaucoup moins cher, sans doute. D'une manière générale, tout ce qui a été fait pour les handicapés à apporter un plus aux gens dits normaux. Regardez la télécommande, par exemple. Vous avez vu le nombre d'handicapés qu'il y a ?
Je crois que dans notre groupe, il y avait 5 personnes non-voyantes. Je vous l'avais bien. Il y a Alain qui... Tu l'as pas eu, Alain, le programme en braille ?
Non.
Ben voilà, alors voilà. C'est bon.
Quand vous donnez des détails de vestimentaire, vous le dites même si ça ne fait pas référence à une image précise ?
Là, en l'occurrence, je dis une robe à godet une fois et après, je laisse tomber et je vais plutôt sur le détail de la mousseline rose en imaginant les gens derrière déduisent une image de quelqu'un léger, un peu naïf. C'est une tache rose au milieu de tout ce noir. Voilà, donc l'idée, c'est de créer un peu une image. Moi, je ne suis pas trop dans la pédagogie du texte. J'ai pas envie d'expliquer tout et de donner des interprétations, en fait. Voilà. C'est des spectateurs comme n'importe quel spectateur, en fait.
On va toucher la maquette ? Allez. Alors, elle est là. Alors, en fait, là, vous avez vraiment toute la cage de scène hein, par rapport aux maquettes qu'on a déjà vues ensemble. Donc, là, vous avez l'avant-scène avec la passerelle qui monte, d'accord, qui fait tout le tour.
Tout le tour, d'accord.
Et là, vous avez l'immense
le plateau
fosse.
Qui descend.
Voilà,
d'accord.
C'est ça. D'accord. Et tout autour, ces tôles noires ondulées.
Tout autour.
Voilà.
Le fond également,
fond aussi,
et tous les côtés.
Tous les côtés.
Oui, c'est pour ça que par moment, on ne voit pas les acteurs
absolument.
Qui sont en fond de scène.
Voilà, voilà. Et l'ambiance est très sombre. Hein. Mmh. L'action se passe en une nuit, donc.
Voilà. Donc très sombre.
Très, très sombre. Très, très sombre. Voilà. Là, on vous a mis des petites figurines, c'est pour vous donner une échelle à peu près. Voilà,
Quelqu'un de nous s'avisa de demander à notre aveugle s'il serait content d'avoir des yeux. Si la curiosité ne me dominait pas, dit-il, j'aimerais bien autant avoir de longs bras. Il me semble que mes mains m'instruiraient mieux de ce qui se passe dans la lune que vos yeux ou vos télescopes. Et puis, les yeux cessent plus tôt de voir que les mains de toucher. Il vaudrait donc bien autant qu'on perfectionne en moi l'organe que j'ai que de m'accorder celui qui me manque.
Là, c'est pentu, mais en réalité, ça l'est pas. Hein. C'est plat. Et là, vous avez la passerelle qui fait tout le tour. D'accord.
Un des comédiens sort du chœur, donc de la ligne de comédien noir qui est toujours en fond de scène dans la pénombre. Et ce comédien descend de la passerelle vers l'avant-scène. Et lentement, le reste du chœur s'assoit en fond de scène.
Joya, qui m'attendra ?
Vous êtes le seul à me regarder ici quand vous me parlez.
Dévoulons Joyou, Jigen Joyou.
Oui, oui. Voyez-vous, je me demande bien pourquoi je suis...
En fait, ce qui est assez excitant, c'est d'être avec l'équipe du spectacle. C'est-à-dire que moi, je dois mettre dans le timing... Et des régisseurs, régisseur son, régisseur lumière, de la régisseuse générale qui donne le top, des comédiens qui sont derrière le rideau de fer, et puis aussi de cette salle qui s'éteint, qui fait quand même 700 places. Donc j'aime bien ce moment où à la fois je suis dans une bulle avec mon casque et à la fois je suis avec tout le monde prête à partir un peu avec le spectacle, quoi.
Cal descend dans la fosse. Léone s'est levée et elle descend la passerelle.
Vous avez des cheveux super.
On dit que nos cheveux sont entortillés noirs parce que l'ancêtre des nègres, abandonné par Dieu puis par tous les hommes, se retrouva seul avec le diable, abandonné lui aussi de tous. Puis alors, il caressa la tête en signe d'amitié. Et c'est comme cela que nos cheveux ont.
Oh, j'adore les histoires avec le diable. J'adore quand vous les racontez. Vous avez des lèvres super. D'ailleurs, le noir, c'est ma couleur.
C'est une bonne couleur pour se cacher.
Elle montre à droite. Elle montre à gauche.
Et aussi le bruit d'un moteur. Je l'entends.
C'est le bruit de l'eau, c'est le bruit d'autre chose. Elle est tous ces bruits impossibles d'être su.
Tu entends-tu?
Oui.
Non, un chien. Je ne crois pas que j'entends. Mais c'est un requin, un chien de rien du tout, personne ne reconnaît à la voix. C'est un caveau, il est très loin, on l'entend plus.
Il me cherche.
Donc ils viennent. Moi je les aime, je les caresse. Ils n'attaquent pas si on les aime.
Ce sont des bêtes mauvaises. Moi, elles me sentent de loin, elles courent après pour le mort.
Vous la répétez, votre audiodescription?
Oui, 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 je la répète. Je répète beaucoup mon introduction. Après, je fais plutôt confiance à mon écoute qu'à la répétition, parce que en fait, avec le spectacle vivant, ça change tous les soirs. Par exemple, là, ce soir, il n'y avait... Horn doit tendre des billets à Albury, et il n'y avait pas de billets ce soir. Donc, si je répète trop, je vais dire qu'il y a des billets, et il n'y a pas de billets. Donc, du coup, j'essaye de repérer les détails fondamentaux, mais je suis surtout concentrée sur le plateau. Et j'ai une conduite, c'est-à-dire que je dois pouvoir m'en détacher, quoi.
Elle a la tête sur sa poitrine. Elle lui prend la main.
Toi, oui. Mais moi, non. Ici, c'est l'endroit de blanc.
Dites-moi ce que vous avez pensé.
Parfois, vous dites un élément scénique avant qu'il se produise. Et là, c'est uniquement le temps qui vous est donné. Ou bien, est-ce que vous pensez aussi parfois au moment le plus propice où vous allez faire naître l'image mentale?
Alors ça, c'est un peu délicat comme question. Parce que moi-même, je me pose beaucoup la question d'anticiper. Je pense que c'est une question d'opportunité. Disons que quand il y a vraiment des choses très importantes, il faut que je puisse les dire avant, absolument. C'est-à-dire, moi, je pense pour mon public aussi, il y a eu des rafales de tirs sur la salle, par exemple. Ça, il faut que je puisse le dire. Ça dévoile le spectacle, ça le déflore, mais voilà, c'est pour ça que là, à la fin, j'ai lancé feu d'artifice. Au moment même où il y avait le feu d'artifice, je me disais, bon, ça sert à rien. Mais en même temps, peut-être que ça me déculpabilise de l'avoir dit, parce que je me dis, bon, peut-être qu'il y aura des gens qui seront rassurés de l'avoir entendu. Parce qu'il y a des bruits quand même qui peuvent être assez spectaculaires et qui peuvent gêner, notamment, alors ce soir il n'y en avait pas, mais quand il y a des chiens guides, on prévient toujours s'il y a un coup de feu sur scène. Et je les préviens souvent... quelques répliques avant, même si ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe sur le plateau, pour que les chiens qui soient en salle soient préparés, câlinés, rassurés par leur maître et qu'ils ne soient pas paniqués. Voilà.
Et il vous arrive d'enlever le casque alors ?
D'enlever le casque ? Pourquoi ?
Si l'audiodescription devient superflu...
Ah non, jamais. Non, c'est jamais superflu.
À Marie-Luce Plumosille, Laurent Mantel, Patrick Saonit et Aiko, Wiza Ouyed et Aziz. Merci à Oel Corvest, Sabrina Bayeul, Ralph Kuhreuser, Régis Saubin, Pierre Ressa, Irina Potapenko, Claire Laboret et Rafi Zekian. Merci au Théâtre de la Colline et à Christelle Longequeux, Jean-Yves, Liane, Valérie, Marise et Alain. Extrait de Lettres sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, de Denis Diderot, lu par Jean-Louis Dumio-Mendy. Merci à Bruno Niewdanski. Coordination Irène Omelianenko, attachée d'émission Christine Gage et Laure-Hélène Planchet. Mixage Jean-Benoît Tétu, réalisation Rafik Zénine. La Toile Noire, un documentaire de Marie Chartron. Meine Mutter hat mein Schuld gewandt. Mein Vater, mein Vater.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 décembre 2010.